La 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 la. Vengo de la tierra centroamericana, donde son bellas tarde, noche y mañana. Ay, mi tierra, cuánto le añoro, qué futuro día me parezcan de oro. La 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 la. Mi país es como un punto en el centro de inmensa faja. Ay, mi tierra, cuánto le añoro, qué futuro día me parezcan de oro. Ay, mi tierra, cuánto le añoro, qué futuro día nos parezcan de oro. La 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 la. Tiene grandes hombres que dan la vida con amor para salvar a mi tierra, que desde día vive herida para liberar a mi tierra. Vengo de la tierra centroamericana, donde son bellas tarde, noches y mañana. Y mi tierra, cuánto le añoro, qué futuro día me parezcan de oro. Ay, mi tierra, cuánto le añoro, qué futuro día nos parezcan de oro.
Le Salvador a autant d'habitants que la Suisse sur une superficie moitié moins grande. Au nord et à l'est, il touche le Guatemala et le Honduras. Au sud et à l'ouest, il s'ouvre sur le Pacifique. La capitale, San Salvador, compte 1,5 million d'habitants. Le Salvador est un pays agricole qui produit surtout du café, du sucre, du coton. Les richesses du pays sont contrôlées par 14 familles, pendant que toute la population vit dans la malnutrition, l'analphabétisme et la misère. Dans les années 30, cette situation a entraîné le début des luttes politiques ouvertes dans le pays. Une première insurrection massive de paysans révolutionnaires a eu lieu, dirigée par Farabundo Martí. L'armée a riposté à l'insurrection par un massacre de plus de 30 000 paysans en janvier 1932, il y a juste 50 ans. Depuis 1970, la lutte contre la dictature militaire a repris très fort et beaucoup d'organismes de masse et de groupes armés ont vu le jour. Face à cette situation, la répression a pris des proportions tristement célèbres. En 1980, ces nombreuses organisations ont fait un immense effort d'unité, tant au niveau des forces armées qu'entre les organismes de masse. Elles se trouvent actuellement regroupées en deux fronts, le FDR, Front démocratique révolutionnaire, et le FMLN, Front Farabundo Marti de libération nationale. Pour savoir mieux ce qu'il en est de la lutte des femmes dans la situation actuelle au Salvador, nous sommes allés interviewer Olga Baires, représentante de l'AMES en Europe, c'est-à-dire de l'Association des femmes du Salvador. Olga, peux-tu nous dire quelles sont les conditions d'existence des femmes au Salvador aujourd'hui?
Bon, je crois qu'il faut commencer pour comprendre que dans un pays capitaliste dépendant, le problème des femmes, c'est le problème, disons, de du secteur ou du couche sociale auquel elle appartient. Par exemple, si c'est une femme ouvrière, elle va avoir les problèmes, disons, propres à sa classe prolétaire. Si c'est une femme paysanne, ça va être la même chose. C'est-à-dire que, en premier lieu, il faudra voir, disons, les contextes économiques de la société dans laquelle la femme se développe, dans laquelle la femme elle vit. Par exemple, si c'est vrai que les statistiques reconnaissent que la population économiquement active féminine et masculine commence à 10 ans, la vérité c'est que dans la campagne, elle commence à l'âge de 7 ans. C'est-à-dire déjà à cet âge-là, les enfants commencent à travailler à côté de son père. Et dans la campagne, nous voyons des relations, disons, sociales, économiques, et très frappantes. Par exemple, les enfants sont considérés comme agrégés du père. Si c'est une fille, elle n'est pas payée. Si c'est un garçon, il n'apparaît pas, disons, dans la liste des travailleurs pour pas profiter, disons, de tout ce qui est revendication laborale et tout ça. Alors là, si nous situons la femme dans tous les contextes familiaux paysans, alors la femme, elle est considérée comme un enfant et payée pourtant comme un enfant. Bon, disons que des cas comme ça peuvent se répéter aussi dans les villes. Et, disons, avec une industrie très naissante, très récente au Salvador, la situation des femmes est comme la situation de tous les ouvriers, sans discrimination de sexe. Et il y a eu, par exemple, le cas d'une usine de gants où travaillaient 300 femmes. Et cette femme avait des revendications économiques et sociales aussi. Et parmi les revendications était qu'à la place d'aller aux toilettes pendant 3 minutes, elles aillent 5. Et à la place de manger pendant 15 jours un sandwich, debout, elles demandaient, revendiquaient à manger assis pendant une demi-heure. Bon, ces deux revendications plus l'augmentation des salaires a valu la répression et la... Bon, les femmes, disons, pour faire accomplir les revendications, ont pris en otage les responsables de l'usine et l'usine. Alors, l'armée a intervenu avec toute sa force et le résultat était de 300 femmes, 40 blessées et plusieurs mortes, violées, torturées sur place et tout ça. Alors, ces sortes de revendications et ces sortes de répression, le souffre aussi l'homme, pareil. Bon, alors peut-être qu'il faudra situer la situation des femmes salvadoriennes, disons, dans un contexte très bien défini pour les comprendre, quoi. Bon, quel exemple pouvoir mettre aussi? L'exemple des enseignantes. L'Association nationale des enseignants salvadoriens, qui est le syndicat le plus important du Salvador, elle regroupe de toute la totalité, 70%, ce sont des femmes. Bon. Dans l'ensemble des conditions de travail et tout ça, les femmes, comme les hommes aussi, ont des salaires très bas. Bon, les revendications de ces secteurs, c'est dans l'ensemble. C'est-à-dire, hommes et femmes vont ensemble. Mais je crois que le plus important, disons, c'est de savoir que ce petit pays-là, c'est une structure économique définie comme capitaliste dépendante, qui soumet, bon, dans la totalité, hommes, femmes, enfants, à la même exploitation. Et que toute possibilité de s'organiser, de se manifester, d'exprimer la situation à laquelle elles sont soumises, bon, amène d'un côté à la répression, à l'assassinat, à la torture, au viol, que c'est une question systématique, c'est-à-dire que la réponse du gouvernement vis-à-vis de la problématique des femmes dans l'ensemble, disons, de la société en tant que travailleuse, et on reçoit de la part du gouvernement qu'il y a une réponse, disons, militaire à une question qui est éminemment politique. Bon, ça peut être pour situer la première question, et que c'est, et qu'il faut partir de là pour pouvoir comprendre et après pourquoi, disons, les femmes qui s'incorporent dans la lutte d'un pays, dans la lutte de libération nationale, et quelquefois ne sont pas bien comprises, disons, ici en Europe, parce que les objectifs prioritaires et primordiaux, c'est d'abord survivre, pas seulement à la répression et se sauver d'une mort sûre, parce que tu cries les droits d'un salaire meilleur ou le droit d'aller aux toilettes 5 minutes à la place de 3. Et bon, et pourquoi, disons, ces revendications à la place deviennent prioritaires que des autres revendications que, ici en Europe, on était déjà conquises en ce qui concerne les questions sociales.
Que acaba de masacrar, eran de malo sentido, dijo el señor general, y en una tierra de luto fusilan sin preguntar, fusilan sin preguntar, fusilan sin preguntar. A la huella, a la huella, a la huella, dijo el señor general. A la huella, a la huella, a la huella, y salieron a matar. Y en una tierra de luto fusilan sin preguntar. Y en una tierra de luto fusilan sin preguntar. La población con su barro no deja de caminar cuando le pasan encima los tanques de caridad que compran en otro mundo donde corre el capital y en una tierra de luz. Salieron a matar y en una tierra de luz. historia de un pueblo que el mundo supo admirar. Pongan la historia en los libros, es igual a asesinar. 35.000 obreros, millones no olvidarán. Y en una tierra de luto, fusilan sin preguntar. Fusilan sin preguntar. Fusilan sin preguntar. A la huella, a la huella, a la huella.
Tu peux parler justement de l'incorporation des femmes dans la guérilla, par exemple?
Bon, pour comprendre pourquoi les femmes s'incorporent dans la guérilla, et bon, c'est pour la même façon. C'est-à-dire que depuis 1932, après la première massacre, sans discrimination des sexes non plus, c'est-à-dire où parmi les 30 000 assassinés de la première insurrection paysanne au Salvador, où ils sont tombés des centaines de femmes, d'hommes, d'enfants, de vieillards, etc. Les femmes ont pris conscience petit à petit que la lutte, disons, contre l'exploitation, contre l'oppression, prenait et une autre allure, une autre dimension, et que la question de lutter au Salvador, c'était une question de lutter pour pouvoir vivre. C'est-à-dire que si à la réponse aux demandes politiques, la réponse était seulement les balles de la dictature, alors les femmes, ensemble, disons avec tous les peuples salvadoriens, ont décidé de répondre de la même façon. C'est-à-dire pas parce que nous sommes bellicistes ou parce que nous sommes guerrières, simplement disons, on nous a imposé la guerre. Et bien sûr, si nous faisons la guerre, nous sommes des guerrières dans l'ensemble. C'est-à-dire on peut parler guerrières pas seulement à la femme qui a pris les fusils, mais guerrières dans la conception globale du terme, faire la guerre pour pouvoir construire la paix. Bon, depuis 1970, qui est née la première organisation politico-militaire, nous voyons à partir de ce moment, disons, une incorporation très importante des femmes, du secteur enseignant, plus particulièrement, du secteur étudiantil et du secteur paysan, dans les différents instruments de l'armée du peuple qui se construisaient au fur et à mesure que la lutte avançait. La guérilla, les milices populaires, l'armée populaire de libération, les organismes d'autodéfense. Disons que la femme s'incorpore, et dans le cas de la paysanne, la femme s'incorpore ensemble avec tous les noyaux familiaux. Disons que c'est une des caractéristiques un peu différentes du reste des femmes et de la ville, par exemple, où quelquefois ce n'est pas l'ensemble de la famille qui s'incorpore, c'est la femme elle seule. Et bon, pour s'incorporer aussi, la femme doit, disons, lutter contre tout ce qui signifie une tradition sur la position, sur la situation des femmes qui n'est pas bien, disons, vieux. Et une femme qui dit qu'elle s'incorpore aux instruments armés du peuple. Mais à ce moment-là, disons, ça on peut parler de 1970. Maintenant, il y a une conscientisation, si on peut dire comme ça en français, est plus grande sur cette question. Alors, je crois que les femmes salvadoriennes, à l'heure actuelle, plutôt, il y a une conscience de que c'est la seule voie, c'est-à-dire passer par la lutte armée pour finir très vite, le plus vite possible, disons, de la, l'exploitation, la répression.
Quand tu dis, par exemple, que la famille paysanne dans son ensemble s'incorpore à la guérilla, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Ça veut dire que tout le monde part dans la montagne, bien.
Oui, c'est-à-dire que s'il existe des zones libérées au Salvador, dans un petit territoire, et où il existe entre 33 et 40% du territoire sous le contrôle du Front Farabundo Martí pour la libération nationale, ça a pu être possible seulement avec l'incorporation massive des familles, des cantons entiers, des quartiers, des hameaux tout entiers, disons, dans la lutte de libération. Et bien sûr que dans les zones sous contrôle du FMLN, il n'existe que la guérilla, ou que les milices, ou l'armée populaire, ou les organismes d'autodéfense. Les organisations de masse, il existe aussi, encore. C'est-à-dire qu'il existe en tant que appui logistique et qui est stratégique aussi du mouvement armé. Et c'est grâce à cette incorporation familiale, disons, de la paysannerie salvadorienne que l'FMLN peut survivre. Et bien sûr, dans les villes, on ne voit pas ça, on ne voit pas cette incorporation, disons, familiale dans l'FMLN, mais parce qu'il est plutôt clandestin. S'il existe des familles tout entières qui militent, on ne les sait pas, on ne les connaît pas. Dans les villes, tout ça est strictement clandestin. Alors, peut-être ça existe des familles entières. Mais je peux te dire que la problématique des femmes est plus aiguë, disons, dans les villes, où la discussion pour l'incorporation dans les différents instruments de lutte, soit de masse ou soit armée, dans les villes se pose d'une façon plus dure, plus difficile, tu vois, par la conception même et par la vie même que les femmes amènent. Tu vois, la campagne c'est une autre chose, la campagne c'est le travail depuis 4 heures du matin, où la femme se lève, allume le feu pour faire les tortillas de maïs, pour que son mari part au travail, jusqu'à le travail aussi de la femme quand il est la période de récolte avec tous les noyaux familiaux. Que dans les villes, c'est pas comme ça. Tu vois, même la vie de l'ouvrière, je ne te dirai pas à les mêmes horaires ou les mêmes rythmes que la vie d'un petit bourgeois, mais elle rentre dans un autre rythme de vie. Alors, c'est pour ça que la question, on les voit comme ça, comme un choix individuel, comme un choix personnel d'un noyau familial, soit la fille, soit l'épouse, soit la mère, bon, qui décide que s'incorpore.
Il y en a beaucoup, les femmes de la ville, qui font partie des organisations armées.
Oui, parce que par exemple, dans le cas d'une des organisations qui est la plus importante au pays, le mouvement armé a commencé dans les villes, c'est-à-dire dans les centres urbains. Et c'est des centres urbains que la guérilla est devenue suburbain et après dans la montagne. C'est-à-dire qu'on a eu un schéma différent du Nicaragua. Nicaragua est venu de la montagne, même qu'il y avait des noyaux logistique, disons, dans les villes. Mais nous sommes nés dans les villes et c'est des villes qui nous sommes partis. Alors, à ce moment-là, oui, il y a eu toute une quantité de femmes qui se sont incorporées à ce travail, disons, clandestin, très compartimenté, où la vie et l'expérience qu'ils ont dû subir, c'était très dur, très difficile, parce que il fallait faire preuve, disons, d'une capacité énorme, d'une double vie. C'est-à-dire la vie comme une femme, comme une citoyenne normale, l'enseignante qui va à l'école, l'employé qui va dans un bureau, et l'étudiante qui fait ses cours, ou la mère de famille, bon, qui reste à la maison en faisant ses tâches domestiques. Et sa double vie aussi, clandestine, de tout un entraînement militaire, quelquefois sur place, par les mêmes conditions, et formation théorique, exercice, tu vois, quelquefois dans les mêmes appartements. Il y a des camarades qui, le temps est en train de passer comme ça, ils sont en train de s'entraîner dans un appartement, comme ça, de la ville. Et l'armée est en train de passer en face. Donc, ce sont des conditions, disons, de guerre, de lutte. Et aussi parce que les organisations, disons, n'ayant pas beaucoup de moyens et ne voulant pas non plus, disons, former ces cadres ailleurs, mais plutôt à l'intérieur, ils ont dû, disons, d'utiliser toute l'imagination et toutes les possibilités pour ça. Et bien sûr, il y a des cadres, des femmes aussi qui se sont formées à l'extérieur, il faut le dire. Mais il y a presque tout le monde qui s'est formé à l'intérieur. Alors, qui pouvait penser au début des décades 70 que la paysanne qui venait en train de vendre ces oranges, à l'intérieur des oranges, il y avait une bombe ou un message, ou je ne sais pas. Tu vois, ou qui pouvait penser, par exemple, que la femme qui lilliputienne qui vend n'importe quoi, des tout petits trucs comme ça, tu vois, c'était une espion qui comment on dit, bon, pas une espion, mais comment est-ce qu'on peut dire qui regardait, tu vois, la mobilisation de l'armée. Et que tous les jours venait sur place avec sa petite vente de n'importe quoi et qui passait la journée en train de voir la mobilisation de... Ou qui pouvait penser, par exemple, de l'étudiante, quelquefois de la haute bourgeoisie, tu vois, dans un des meilleurs collèges de la capitale, qui aussi. Tu vois?
Mire, compañero, la verdad es que no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres. En el ejército de Sandino, María de Altamirano, Conchita Alday y Blanca Arauz. Y en nuestra organización, en el Frente Sandinista, Luisa Amanda, María Castil, Claudia, Arlen, Mildred.
Barranco, hermano de viento, de canto y de luz, decime si en tus andanzas viste una chavala llamada Lenciú.
Yo vi de Sensontle, amigo, una estrella dulce en el cañaveral, saeta de mil colores dentro de los rumores del pajonal.
Entra en el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se fue río arriba pa' la sabana, como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí.
Según sus señas pasó por allá.
Le cuento, Sensontle, amigo, que donde la chinita peleó hasta el final. Nació un manantial quedito que a cada ratito le viene a cantar. ¡Échale!
Enterró en el hueco de su guitarra el lucero limpio de su corazón.
se fue río arriba pa' la sabana, como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí, que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí.
La participation des femmes à la lutte de libération au Salvador, ça donne certainement des récits extraordinaires, mais on sait que cette histoire-là, elle s'est déjà produite ailleurs, par exemple au Nicaragua, par exemple en Algérie, par exemple au Vietnam, etc. Et tu serais d'accord de dire que le minimum de pouvoir social que les femmes prennent avant le triomphe d'une révolution nationale, c'est pas nécessairement l'assurance qu'elle le garde intact après. Alors dans le programme du gouvernement démocratique révolutionnaire, par exemple, qu'est-ce qui te semble donner des assurances sur le fait que le minimum de pouvoir social que les femmes ont acquis au travers de cette lutte, elles vont pouvoir continuer de le tenir en main?
Bon, je crois que peut-être il faut commencer par une question. C'est-à-dire que je crois qu'au fur et à mesure, tu vois, que les peuples s'incorporent d'une façon plus massivement dans les luttes de libération un peu partout. Bon, nous avons les cas les plus récents au Nicaragua, mais non le Salvador, et le Guatemala qui peut-être va régir encore plus, tu vois, la révolution mondiale. Et il faut voir que petit à petit la femme a monté de ces échelons. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, je vais m'expliquer. Si avant la femme a été utilisée comme objet de la révolution, c'est-à-dire objet dans les bons sens de tout terme, comme messagère, comme espion, comme... Bon, comme tous les cas que je viens de compter, un peu comme ça, comme domestique, par exemple, dans les familles des grands bourgeois pour voir la mobilisation, les contacts et tout ça. Mais aussi la femme, dans le cas du Salvador, elle participe comme sujet de cette transformation, c'est-à-dire, elle est à la tête du processus. Elle conduit le processus, c'est-à-dire, elle n'est pas seulement conduite, mais il conduit aussi, pourquoi je te dis ça. Bon, et une des organisations a parmi les conseils de la révolution, les 40% de cette direction, ce sont des femmes. Bon, ça, c'est disons un pas très avancé.
C'est quelle organisation?
Et bon, je te parle concrètement d'une organisation politico-militaire, la Force Populaire de Libération, Farabundo Martí. Bon, les 40% de cette organisation, c'est-à-dire les conseils, est composé par des femmes.
Donc bon, des dirigeants.
Des dirigeants, voilà. Et par exemple, dans ces mêmes organisations, il y a la définition de la stratégie et de la tactique des milices populaires a été faite par une femme. Les syndicats d'enseignants qui nous venons de parler est né à l'initiative d'une femme. Alors, c'est-à-dire qu'il y a tout un cadre, disons, de référence où la femme s'est située comme conductrice du processus. Tu vois? Bon, bien sûr, dans la base, la participation est passive, dans les sens, n'est pas passive, parce qu'on a connu beaucoup, disons, la combativité du peuple salvadorien. Et la combativité des femmes, on peut la mesurer aussi par la répression qu'elles subissent. Les 33% des assassinats commis et commis sur des femmes, avec tout ce que ça signifie, la torture, les viols et tout ce qu'on peut faire pour dénigrer à la femme. Tu vois? Alors, je crois que toute cette, disons, richesse, tout ce bagage, toute cette expérience accumulée, tu vois, dans ces décades, au moins pour les femmes salvadoriennes, je crois, que nous assure d'un côté la possibilité de continuer dans la conduction du processus. Bon, ça c'est un aspect de la question. Mais justement, disons que à l'inquiétude, tu vois, la crainte et la doute, tu vois, de tout ça, même ayant conscience que nous avons des conductrices, a fait que la base se mobilise. Tu vois, et c'est à cette mobilisation de base, disons, des femmes de différents secteurs, et à MES a pu naître. Pourquoi? Parce que, bon, les femmes militantes de différents secteurs, des milices populaires, des guerriers, de l'armée populaire de libération, des organismes d'autodéfense, des organisations de masse, après 10 ans de lutte continuelle, et après avoir, disons, structuré et conçu, disons, conçu et en même temps solidifié les instruments qui allaient les donner la libération ensemble avec tous les peuples, les femmes ont dit, bon, maintenant il faut créer un canal. Un canal qui puisse nous assurer que toutes ces conquêtes faites aujourd'hui, dans ces 10 ans de lutte à côté de notre peuple, nous les maintiendrons. C'est-à-dire des conquêtes qu'il faut pas seulement les maintenir, mais des conquêtes qu'il faut les donner connaître aux autres femmes de la société, que pour une raison ou que pour une autre, ils ne sont pas incorporés dans le processus de libération. Il y a beaucoup de femmes au Salvador qui, par ses conditions sociales, économiques, ne participent pas parce qu'elles considèrent qu'elles n'ont rien à revendiquer. Économiquement, peut-être. Même s'ils sont des femmes soumises au foyer, au service intégral de l'homme, tu vois, c'est-à-dire comme toujours a été passé. Alors nous pensons que pour nous, la création, disons, de l'Association des femmes du Salvador, c'est déjà, même avant les triomphes, les questionnements, tu vois, de la problématique des droits de la femme, que nous les posons dès maintenant. Et que nous pensons, tu vois, que c'est une problématique qui doit être dans les futurs gouvernements et assumée par ces gouvernements. Et je crois que AMIS, c'est un instrument qui peut assurer la continuation de cette lutte. Parce que pour nous, la lutte ne finit pas à la prise du pouvoir. La lutte continue. Et c'est la lutte de revendication de la femme. Tu vois? Et bien sûr, peut-être que ce vont être des revendications qui d'une façon ou d'une autre, par les mêmes conditions, pas seulement des guerres dans le moment actuel, mais des reconstructions des pays et de beaucoup de choses, vont avoir, disons, des objectifs définis à cet moment, mais sans oublier, nous. Et je crois que c'est là l'importance de la messe, et c'est là l'importance, disons, de travail de réflexion qui fait la messe. Et je trouve, tu vois, et jusqu'à maintenant, je ne voudrais pas dire que la messe est exceptionnelle, parce que je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui en Amérique latine et qui dans le monde entier sont en train de se questionner, mais c'est déjà cette prise de conscience et accepter, tu vois, et pas seulement accepter, mais faire voir, tu vois, que les organisations politiques, tu vois, doivent assumer et obliger aux organisations politiques, aux partis, à assumer cette problématique. Il ne s'agit pas seulement de donner à la femme des programmes spéciaux féminins, tu vois, dans la radio ou dans la télévision, ou démontrer la vie, je ne sais pas. C'est plutôt une question plus idéologique, tu vois, qui va plus loin que ça. Je te dis, je suis en train d'étudier le gouvernement démocratique, le programme du gouvernement démocratique révolutionnaire. Je suis contente de voir que dans ce programme, il y a des partis qui ne touchent pas à la question idéologique, mais au moins, qui donne un espace à la femme. Déjà, il est programmé à la télévision, tu vois, l'homme des femmes. Bon, nous espérons que sector de femmes, qui s'appelle comme ça, va servir justement, tu vois, ce débat idéologique contre le machisme, c'est-à-dire contre une conduite sociale, culturelle, qui nous devons combattre. Parce que faire la révolution et changer les structures économiques, tu ne changes immédiatement, tu vois, les structures mentales. Alors ça, c'est un combat que nous devons le maintenir. Mais je te dis que il y a parmi toute une population très jeune, et c'est admirable, parce qu'il vient de passer ici à Paris, une des représentantes du mouvement étudiantil de secondaire, que j'étais merveillée, je t'assure, 19 ans, avec une maturité et avec une sécurité de ce qu'elle, comme femme, attend de la révolution, attend des changements qui vont se produire, tu vois. Et bon, elle dit, nous sommes une nouvelle génération qui va assurer que nous, en tant que femmes, ayons ce que nous avons droit et à maintenir nos conquêtes, faites jusqu'à maintenant. C'est-à-dire la rupture, tu vois, dans les noyaux familiaux, l'abandon quelquefois de la famille parce que le père, avec cette tradition dictatoriale paternelle, ne permet pas aux filles participer aux affaires politiques. Ou la femme qui a dû se divorcer parce que son mari, bon, ne pouvait pas aller ensemble dans son développement personnel politique. Elle ne pouvait pas aller avec elle. Bon, et la femme qui se sépare. Bon, tout ça, tu le vois dans une génération très jeune. Bon, et l'espoir, si tu veux, pour cet changement et assurer que le nouveau gouvernement va avoir compte de ça, c'est que les 40% de la population salvadorienne a moins de 15 ans et que plus de 50% ce sont des femmes. Alors disons que c'est un peu ça l'espoir quoi, de ces questions. Tu vois. Et je vais te dire, c'est vrai, parmi les objectifs politiques du nouveau gouvernement démocratique révolutionnaire, on ne touche pas la question comme ça idéologiquement. Parce que si tu veux, la définition d'un programme, c'est toujours une question technique. C'est-à-dire par rapport aux besoins les plus immédiats. L'éducation, les mesures sanitaires, l'alphabétisation, la transformation des masses médianes, les transports, tu vois. Mais nous espérons, disons, étant derrière, tu vois, pas derrière, mais plutôt étant là, insérés dans ce processus, que les femmes vont savoir foncer bien pour y arriver.
Merci.